Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Bicard qui nous parle du roman Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne d'Elia Levita qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Sandrine.
Alors quelques mots pour vous présenter tout d'abord, vous pouvez m'interrompre si je me trompe. Vous êtes maître de conférences à l'INALCO et spécialiste de littérature yiddish ancienne. Vous êtes également traducteur du yiddish à l'hébreu. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ?
Du yiddish au français et de l'hébreu au français. Et je travaille à l'INALCO comme enseignant du yiddish.
Alors, comment se porte l'enseignement du yiddish en France ? Est-ce que ça intéresse toujours les nouvelles générations ?
Ça intéresse des générations qui se renouvellent. C'est une langue qui reste un objet de curiosité. Il y a des moments de grand succès quand une série sort sur Netflix, comme récemment, il y a eu deux séries, les Shtisel et Unorthodox, qui ont fait venir un peu des plus jeunes. Dans l'ensemble, j'ai une vingtaine d'étudiants chaque année à l'INALCO et j'ai encore une vingtaine d'étudiants dans d'autres endroits, à la Maison de la Culture Yiddish et au Centre MEDEM.
Alors, on va parler dans un instant de votre actualité, mais j'aimerais vous poser une autre question. Pourquoi l'enseignement du Yiddish ? Comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette langue ?
Alors, j'y suis venu relativement tard. C'est une langue que j'ai pas vraiment entendu dans l'enfance. Ma grand-mère parlait yiddish parfaitement, ma grand-mère maternelle, et je ne savais pas qu'elle le parlait jusqu'à ce que moi-même je commence à maîtriser la langue. Et c'était à l'âge de 25 ans que, pour faire des recherches, j'étais inscrit en Master 2 et je devais, j'avais choisi d'étudier quelque chose qui n'était pas surtravaillé, un sujet qui soit un peu vierge.
Et dans quelle discipline vous étiez ?
J'étais en littérature. Mm-hmm. J'étais en littérature. J'avais déjà fait un travail sur Benjamin Fondane, qui est un poète et écrivain du XXe siècle. Mais j'avais envie de me spécialiser sur quelque chose d'encore plus méconnu. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment plongé dans la littérature yiddish et que j'ai découvert l'existence d'Elia Levita. Et c'est en partie grâce à Elia Levita ou pour Elia Levita que je me suis plongé pleinement dans le yiddish. Je l'ai maîtrisé assez rapidement parce que je parlais déjà allemand et j'avais déjà des très bonnes notions d'hébreu. C'était la moitié du chemin était déjà parcouru quand j'ai commencé. Et puis, au bout d'un an, je pouvais converser assez librement jusqu'à 2-3 ans plus tard où j'ai commencé à donner des cours. Et on apprend toujours énormément en donnant des cours, donc je continue d'apprendre aujourd'hui.
Une vingtaine d'étudiants, de quels horizons ils viennent ? Est-ce que c'est des curieux ? Est-ce que ce sont des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants de personnes qui maîtrisaient cette langue ? Qui sont-ils ?
Il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. J'ai des étudiants qui vont de 20 ans à 80 ans. J'ai des étudiants qui ne sont pas juifs. J'en ai chaque année sans doute un bon quart de mes étudiants n'est pas juif. Les trois quarts le sont. Et ça peut être lié à leurs études. Parfois, j'ai des historiens qui viennent me voir. J'ai des personnes qui se spécialisent dans l'histoire politique, dans les sciences politiques, qui ont besoin de travailler sur des sources en yiddish. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui viennent par curiosité. Le yiddish aussi est l'une des langues linguistiquement les plus riches parce que c'est une langue de contact. On apprend énormément. On apprend au-delà même de la langue. On apprend comment fonctionne une langue en contact. On apprend comment se transforme au cours de l'histoire le langage. Donc c'est un enseignement qui dépasse le pur enseignement linguistique.
Alors, dernière question sur le sujet. Après, on en vient à Elia Levita, dont J'apprends hein, qu'il a été à l'origine de votre engouement pour le yiddish. Il y a deux grands foyers, hein, grosso modo, du yiddish dans le monde, en Israël et aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que c'est une langue qui est en danger, en voie de disparition, ou justement ses locuteurs permettent de ramener à la vie une langue ancienne ?
C'est une langue qui est... je ne crois pas qu'elle soit classée comme une langue en danger, parce qu'il y a des locuteurs aujourd'hui jeunes dans les milieux ultra-orthodoxes. Mais c'est une langue qui a un statut assez particulier, parce que c'est devenu la langue d'une communauté. Ce n'est plus une langue de l'ensemble des Juifs, c'est ce qui a été le cas pendant... tout le XXe siècle et de très nombreux juifs non religieux parlaient yiddish. Aujourd'hui, c'est devenu une langue qui est parlée essentiellement par les ultra-orthodoxes. Et la différence entre cette population et les lecteurs d'avant-guerre ou les lecteurs âgés d'après-guerre, c'est qu'ils ne lisent pas beaucoup la littérature. Ils ne considèrent pas que des auteurs comme Sholom Aleichem ou Mendelem Euchersfarim, les classiques du yiddish n'appartiennent pas vraiment à leur culture, et la langue continue à évoluer très vite. Donc c'est une langue qui n'est pas en danger, mais c'est une langue dont le patrimoine est en danger.
Alors grâce à vous, un poème épique écrit en yiddish ancien et traduit aujourd'hui en français pour la première fois. Il s'agit du roman courtois yiddish Paritz und Vienne, je ne sais pas si je prononce
c'est bien,
ça
Paris
va à peu
Vienne,
près.
Oui, très oui, bien.
D'Alia Levita, donc traduit sous le titre Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne. Il raconte l'histoire romantique qui se noue entre le Chevalier Paris et la Princesse Vienne en référence aux deux villes françaises, une œuvre écrite en provençal et en alexandrin, selon la tradition du poème épique. Plus tard, cette version provençale a été adaptée dans la plupart des langues européennes. Et pour la version yiddish qui nous intéresse, Elia Levita, qui vivait en Italie entre le 15e et le 16e siècle, s'inspire de cette version italienne. Elia Levita, Eliaou Bachour en hébreu, était un poète et grammairien typique de la Renaissance italienne. Il prit une part importante dans la diffusion des idéaux de la Renaissance parmi les juifs de la péninsule et plus largement d'Europe. Chacun des 10 chants du poème épique est introduit par un prologue satirique, une innovation poétique majeure héritée de l'Arioste, un grand poète italien contemporain d'Elia Levita. Ainsi, Elia Levita fait partager la littérature chevaleresque à ses contemporains juifs dans leur langue, le yiddish, et le roman de chevalerie chrétien par essence se trouve alors imprégné de pratiques et de croyances juives. Elia Levita s'amuse ainsi à créer un monde ni juif ni chrétien, mais les deux à la fois, comme si cette distinction n'avait aucune importance. Et votre prouesse, Arnaud Bicard, c'est non seulement de l'avoir traduit entièrement du yiddish au français, mais également d'avoir respecté la versification. Alors, je vais vous poser une question, vous l'avez un peu introduite. Comment avez-vous découvert ce chef-d'œuvre yiddish de la Renaissance italienne ?
Alors, je l'ai découverte quand je lisais une histoire de la littérature yiddish, une histoire générale. J'étais à l'époque, j'avais 25 ans et j'étais un jeune chercheur en littérature, et j'avais une ignorance à peu près totale de cette histoire, et notamment j'ignorais totalement qu'il y a eu plusieurs siècles de yiddish en Italie, que le yiddish a été parlé dans le nord de l'Italie depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XVIIe siècle. Et ce contact entre la langue yiddish et la culture italienne m'a tout de suite intéressé, fasciné, et j'avais très envie de découvrir les romans de chevalerie dont il était question dans l'histoire que j'ai lue. Je crois que c'était l'histoire écrite par Sol Liptzin, un chercheur américain. Et lorsque j'ai lu le premier roman qui s'appelle Bovo d'Antona ou Bovebourg, je l'ai trouvé très amusant. Mais ensuite, lorsque j'ai lu le Paris und Vienne, ce deuxième roman, je l'ai trouvé véritablement assez fantastique de réussite poétique. J'ai trouvé que c'était un très beau roman, très drôle, très enlevé. Les sentiments amoureux, ils sont présentés d'une façon qui nous entraîne. Et dès le départ, l'envie de le traduire, l'envie de le partager était présente.
Qu'est-ce qui change dans la version yiddish par rapport à l'original en italien ?
Alors, l'original en italien n'est pas en vers en réalité, c'est un original en prose, comme d'ailleurs l'original provençal. Les vers sont arrivés avec Elia Levita. C'est Elia Levita, il le dit dans son prologue, il dit la source que j'utilise, la source chrétienne, n'est pas en vers, mais moi je me sens la force de rimer jusqu'à la dernière ligne. Donc il était très fier de sa prouesse poétique et il y a mis tout son talent. C'est une forme, la forme qu'il utilise, c'est une strophe de 8 vers, est une forme italienne. Il se fonde véritablement sur ce qui se faisait en Italie à son époque, comme poésie souvent chantée dans la rue. Hein, c'était de la poésie chevaleresque. Tout le monde en raffolait, depuis le petit artisan jusqu'au prince. Tout le monde collectionnait les romans de chevalerie. On les lisait, on les chantait et on connaissait les épisodes. C'était l'équivalent des séries Netflix aujourd'hui. Tout le monde connaissait qui était fils de qui avait trompé qui, et ça entraînait comme ça toute une foule autour de ces chanteurs de rue. Probablement Elia Levita a-t-il découvert le genre comme ça dans la rue en l'écoutant, et puis c'était un grand lecteur et qui maîtrisait un nombre de langues impressionnantes, hein. C'était un savant, et donc il a lui-même repris à ses chanteurs de rue la forme, ces vers qui sont d'abord alternés et qui se finissent par un couplet de vers plates et de rimes plates, et ça permet de créer un rythme. C'est un rythme très particulier lorsqu'on lit cette œuvre, et ça j'ai absolument voulu le conserver.
Est-ce que vous savez si le texte a beaucoup circulé dans les communautés juives yiddishophones d'Europe ?
Alors on sait que l'autre roman de chevalerie, le Bovo d'Antona, a beaucoup, beaucoup circulé au cours des siècles et est arrivé jusqu'au fin fond de l'Empire russe. On a des dizaines et des dizaines d'éditions, de versions de ce premier roman de chevalerie qui a été écrit en 1507, alors que le roman que nous publions aujourd'hui a été écrit sans doute 25 ans plus tard, après 1532. Le premier roman a survécu, alors que celui-ci beaucoup moins. Et c'est un paradoxe, parce que le deuxième roman est poétiquement plus réussi, moins populaire peut-être dans sa tonalité. Ça explique aussi peut-être qu'il ait eu moins de succès. Mais ce qui est intéressant avec le Bovo d'Antona, donc, c'est que il a changé de nom au cours des siècles. On l'a ensuite appelé Bovobourg. Et au 19e siècle, on l'appelait Bovemeise. Et Bovemeise, il avait perdu à peu près toute la forme originale. Il n'y avait plus de rimes, c'était en prose. La plupart des traits d'esprit avaient été supprimés, mais c'était devenu une sorte de conte pour enfants. Et c'était un conte assez extraordinaire. Le héros rencontre un personnage à moitié homme, à moitié chien. Et le conte était tellement extraordinaire que Bovemeise est devenu synonyme d'histoire incroyable. On a cru, parce que Bove ressemble à Bobe, la grand-mère, on a cru que Bovemeise, ça voulait dire histoire de grand-mère. Et en réalité, non, ça vient du roman de chevalerie, c'est juste une sorte de conte des mille et une nuits.
Alors, ce livre est incroyable, c'est intéressant. On ne s'imaginait pas que des romans de chevalerie pouvaient être écrits en yiddish. Vous nous en citez au moins deux. Et en fait, souvent, on a l'impression, c'est sans doute une idée préconçue, vous allez nous le dire, que la littérature yiddish était souvent destinée à des personnes pieuses. Et on imagine mal des personnes pieuses religieuses lire des poèmes épiques. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi se composait la littérature yiddish à l'époque ? Et puis, est-ce que c'est vrai, est-ce que cette littérature était accessible à tous les publics, et notamment au public pieux et religieux ?
Alors, la distinction entre pieux et non religieux n'est pas tellement valable avant l'époque moderne. Tout le monde était pieux d'une certaine façon. Elia Levita était bien évidemment un juif observant qui faisait toutes les mitzvot, tous les commandements. Mais il y avait effectivement, je pense que la notion qui convient pour le XVIe siècle, pour l'époque de notre roman, c'est de rigorisme. Il y avait des rabbins qui étaient rigoristes et des rabbins qui étaient beaucoup plus tolérants. Et Elia Levita, qui est fils, il appelle son père rabbin. On ne sait pas si c'était véritablement un rabbin, mais ce qui est certain, c'est que son père était extrêmement savant. Lui-même était extrêmement savant, que ce soit dans la Bible, dans le Talmud. Il est devenu surtout le plus grand grammairien de son temps. Il était connu pour ça. Et cette position il était à l'interface en réalité entre le monde juif et le monde chrétien parce qu'il a enseigné l'hébreu à de nombreux chrétiens, notamment un cardinal, le cardinal Gilles de Viterbe. Et enseignant l'hébreu à des chrétiens, il s'est opposé et il a eu beaucoup d'ennemis qui lui reprochaient de pactiser avec les ennemis du judaïsme et de gâcher le savoir juif. Le yiddish, lui, en l'écrivant, il avait aussi beaucoup d'ennemis. Lorsqu'on écrivait en yiddish des romans de chevalerie qui n'avaient rien à voir avec la pensée juive, avec le Talmud, il y avait toujours des condamnations qui venaient de la branche plus rigoriste, qui disait « Lorsque vous lisez ce type de texte à Shabbat, vous ruinez votre âme. » Or, Elia Levita écrivait clairement dans les préfaces, pas dans la préface du roman du Chevalier Paris, mais dans la préface de l'autre roman, de l'histoire du Chevalier Beauvau, il écrit « J'ai écrit ce texte pour vous, mes chères femmes juives. » On écrivait le yiddish surtout pour les femmes. Et ça aussi, c'est une distinction très importante, c'est que les hommes sont censés lire en hébreu. Les femmes, elles, n'apprenez pas l'hébreu en règle générale. Il y avait des exceptions, mais la règle voulait que les femmes ne parlent pas l'hébreu. Et donc, dans quasiment tous les textes yiddish de ce temps, on écrit « c'est pour les dames ou pour les hommes qui sont comme des dames ». Et lorsque il ouvre le roman de chevalerie, il dit « je l'écris pour vous, pour que vous ne vous ennuyiez pas le jour de Shabbat ». Donc il est clair qu'il a une très grande ouverture et une très grande tolérance à l'égard du divertissement, ce qui n'était pas le cas de l'ensemble de la communauté.
Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes, hein, notamment vous parlez des femmes et de la condition de la femme. J'aimerais juste lire une partie d'un chant. Hein. Elles n'ont mérité de considération que pour nous avoir mis au monde, nous les hommes. Elles crient haut et fort cette réclamation, mais là aussi leur droit n'est pas fondé en somme. Vois la rose odorante à rouge carnation, elle est issue en fait d'une ronce ou tout comme. Quant au lys, il est né d'une herbe repoussante, on en aime la fleur, on en jette la plante. Il y a évidemment des passages qui sont plutôt misogynes, mais d'autres où la femme a une place quand même de choix. Et c'est oui. Ça qui est intéressant de voir à l'époque. Et donc la question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que finalement nous apprend ce poème épique sur les communautés juives à cette époque-là? Est-ce qu'on apprend des choses, et notamment sur la place de la femme?
Alors on apprend beaucoup de choses, on apprend oui. surtout la façon dont était perçue le monde extérieur, et puis la distance qui est mêlée de familiarité. On a beaucoup de mal à penser. On a dans le texte, on a des satires. L'extrait que vous avez lu est tiré d'une des satires des prologues. Cette satire contre les femmes, c'est le début du chant 4, est très brillante. Hein. C'est un vrai morceau de bravoure qu'il a produit. Il entre dans une tradition poétique. C'était la mode de créer de temps en temps des poèmes misogynes et puis ensuite de créer exactement le discours contraire. C'était des exercices de rhétorique. Et il joue, le poète Elia Levita joue beaucoup sur les deux cordes. Il va critiquer, puis défendre, puis recritiquer, et on ne sait plus sur quel pied danser. Il fait la même chose avec les Juifs de Venise. Il y a un des chants qui commence par une satire très sévère des Juifs du ghetto de Venise en disant qu'ils sont incapables d'accueillir un quelconque étranger, qu'ils sont snobs, hautains, et qu'ils laisseraient quelqu'un mourir de faim devant leur porte. Donc, ce que ça nous apprend déjà qu'il y avait un degré de compréhension et d'adoption de la culture non-juive qui est très fort. C'est l'un des textes qui témoigne, il y en a d'autres, hein, la Renaissance italienne dans les poèmes hébraïques notamment est très belle, et on a des poèmes qui sont proches de la poésie amoureuse du temps. Donc il ne faut pas s'imaginer que le ghetto était un lieu fondamentalement clos. Au départ, lorsque les Juifs sont arrivés à Venise, c'était plutôt une amélioration parce qu'ils n'avaient pas le droit de vivre dans la ville. Ils n'avaient pas le droit de s'y installer. Ils s'y sont installés à condition de vivre dans le ghetto. Mais le ghetto de Venise est resté, malgré... Alors, il ne faut pas non plus s'en faire une image idyllique. C'était certes difficile. Hein. Il fallait vraiment rentrer tous les soirs. On était derrière des murs. On devait payer nous-mêmes. Les Juifs devaient payer leurs gardiens. Donc, c'était pas une sinécure. Mais il restait ouvert et très perméable à la culture extérieure. Et les échanges entre les Juifs, qu'ils soient Ashkenaz ou non, d'ailleurs, parce qu'on parlait bien sûr le yiddish, mais on parlait l'italien, c'est évident, on parlait aussi le judéo-espagnol pendant une période après l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'était un lieu où le monde circulait et on voyait le monde, et le roman de chevalerie qu'on présente en est un excellent témoignage.
Pourquoi ce clin d'œil à Paris et Vienne dans le titre, le chevalier Paris et la princesse Vienne?
Alors, ce clin d'œil vient de la source, du premier, du roman originel. En réalité, c'est un roman qui provient de la culture aristocratique du temps. Au XVe siècle, il y avait un genre qui avait beaucoup de succès, qu'on a appelé le roman sentimental ou le roman idyllique, et qui reflétait l'idéal de la vie courtoise, des relations entre seigneurs et leurs vassaux. Et les deux villes en question, c'est Paris, notre ville où nous nous trouvons en ce moment, et Vienne, ce n'est pas la Vienne d'Autriche, c'est la Vienne de France. C'est la Vienne qui est au sud de Lyon, dans le Dauphiné. Pour cette raison, l'un des personnages principaux s'appelle le Dauphin. C'est le père de Vienne. Et les personnages principaux, Paris est un chevalier qui est fou amoureux de Vienne, une princesse, qui lui est supérieure en rang, ce qui rend impossible leur mariage et ce qui met en mouvement toutes les aventures. Paris finit par s'exiler et il doit remporter toute une série d'épreuves pour gagner le cœur de sa belle. On est dans une mise en miroir de relations entre le dauphin, qui est le vassal du roi de France, et le roi de France. Bien sûr, écrit en yiddish, il y a un décalage terrible, parce que ces relations entre seigneurs n'ont rien en commun avec ce que connaissent les Juifs du ghetto. Et le poète ne se prive pas de le dire. D'ailleurs, il arrive très souvent de dire... Dans ma source italienne, il y a une série de seigneurs qui sont nommés. Je ne vais pas vous les redire parce que vous ne les connaissez pas, moi non plus, et vous n'en avez rien à faire.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Arnaud Bicard, traducteur du yiddish ancien, du roman de chevalerie d'Elia Levita, Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne. On a l'impression que c'est un travail titanesque que vous avez fait, en plus en versification. Combien de temps est-ce que ça vous a pris? Est-ce que c'était difficile?
C'était pas évident. J'avais la chance de venir après d'autres chercheurs. En fait, le texte, ce qui est intéressant, il a une histoire assez fascinante. Il a été redécouvert dans son entièreté seulement il y a 40 ans, en 1986. Auparavant, on ne connaissait pas l'ensemble du roman de chevalerie, on n'en connaissait que les deux tiers. Et au moment où on l'a redécouvert, les chercheurs en littérature yiddish se sont jetés sur ce roman parce qu'ils savaient que c'était un chef-d'œuvre et ils en ont fait des éditions critiques. Donc, on l'a étudié de façon extrêmement approfondie. Et en 1996, il y a deux éditions critiques, une en Israël, l'autre en Allemagne, qui sont sorties du roman. Ce qui, bien entendu, a facilité mon travail, m'a permis de lire beaucoup plus rapidement, parce que j'avais l'aide de notes de bas de page, j'avais aussi une contextualisation, mais ça ne m'a pas empêché d'écrire toute une thèse sur le sujet qui a été publiée il y a 3 ans, qui s'appelle « La Renaissance dans les rues du ghetto » et où j'étudie l'ensemble de l'œuvre poétique de ce poète et le cadre dans lequel il s'est inséré. Donc ça a été un travail de long terme, ça m'a pris plusieurs années. Ceci dit, la traduction était à accompagner de façon extrêmement harmonieuse ce travail sur l'époque, sur le contexte. Et ça a été un travail aussi qui m'a procuré beaucoup de plaisir parce que c'est un travail sur la langue, c'est un travail où on essaye tant bien que mal de réduire l'écart temporel, de faire que un lecteur aujourd'hui en France au XXIe siècle puisse se plonger dans une œuvre qui a été créée pour des juifs du XVIe siècle. C'était un énorme défi et c'était un vrai plaisir de le relever.
Et le résultat est une réussite. Par rapport au yiddish, à ce yiddish d'Elia Levita du nord de l'Italie, est-ce qu'il a des particularités? Est-ce qu'il est compréhensible de quelqu'un qui viendrait de Lodz ou d'Ukraine ou d'un autre coin de l'Europe?
Oui, il n'est pas compréhensible tel quel pour un locuteur du yiddish oriental. C'est du yiddish qui était parlé donc à l'est de l'Europe. C'est un yiddish qui n'a aucune trace de langue slave. C'est un yiddish qui est plus proche de la source même du yiddish, c'est-à-dire le moyenno-allemand, une forme ancienne de l'allemand. Et puis c'est un yiddish qui a également des contacts forts avec l'italien. Donc il y a un certain nombre de termes italiens qui ont pénétré. Pour illustrer cela, je peux mentionner le fait que le premier roman de chevalerie, le Bovo d'Antona, a été retraduit en yiddish moderne pour permettre aux lecteurs du XXe siècle de découvrir cet ancien poète yiddish du XVIe siècle. On avait en réalité oublié, au XIXe siècle, on ne savait pas que la littérature yiddish avait un passé riche et parfois brillant. Et ce n'est que par l'aide d'historiens de la littérature que les locuteurs du yiddish ont redécouvert leur héritage. Et ça s'est produit au début du XXe siècle.
Alors, il y a ce travail de découverte, de traduction, de compilation. Et puis, il y a le projet de publication aux éditions de l'Antilope avec Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus. Est-ce qu'ils ont accepté immédiatement votre projet? Comment ça s'est passé?
Alors, ils n'ont pas accepté immédiatement. Oui. Ce projet, je l'ai gardé chez moi pendant assez longtemps. Et puis, j'ai insisté et ils ont... Ils avaient un peu peur parce que on se dit un roman de chevalerie qui a 500 ans, qui peut lire une chose pareille? Et en réalité, ils ont fini par véritablement être conquis en lisant le texte et en se disant mais c'est un texte qui a beaucoup de sens aujourd'hui encore. C'est un texte qui a de quoi entraîner le lecteur contemporain. Il faut dire qu'il est d'une telle modernité dans son dans le sens de l'humour du poète. Il est et aussi parfois dans les discours et dans la façon dont il mélange les traits de caractère de différentes religions. Il y a des personnages musulmans qui parlent comme des juifs, et bien entendu des évêques qui célèbrent des mariages sous des choupotes, sous la choupa. Donc c'est quelque chose qui a une modernité réelle et ils sont revenus vers moi et je leur en suis très reconnaissant parce qu'ils ont eu ce courage et ils ont dit ça c'est un texte qu'il faut absolument qu'on fasse pareil.
Alors il faut dire aussi que c'est un joli livre par sa couverture et par les illustrations aussi qu'il contient. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? D'où viennent-elles ces illustrations ?
Oui, parfaitement. Et ça aussi, c'était quelque chose de formidable qu'ils ont décidé de faire, Gilles Rozier et Anne-Sophie Dreyfus. Lorsqu'ils ont vu ce roman, ils se sont dit « il faut qu'on lui donne une forme qui corresponde à son originalité ». Et ils ont pris la décision de le publier avec une couverture cartonnée très belle qui permet de le mettre un peu en évidence et de lui donner ce sentiment d'être un livre précieux. Et à l'intérieur, ils ont décidé d'inclure les gravures qui accompagnaient l'édition originale, qui est une édition de Vérone hein, en 1594. Cette édition comprend une vingtaine de gravures et ces gravures ont été reprises et insérées à l'intérieur de la traduction, ce qui permet également d'avoir toute cette atmosphère du temps sous les yeux, visuellement, grâce aux gravures.
Donc un joli livre, on l'a dit, on le répète. Selon vous, à qui il est destiné ? Est-ce que, comme moi, c'est un livre qu'il faut lire du début à la fin et se perdre dans les méandres de cette histoire d'amour qui ne peut pas aller jusqu'au bout, ou le garder comme un ouvrage presque patrimonial, être content d'avoir chez soi un ouvrage traduit du yiddish en français et savoir que c'est un roman de chevalerie ? Quel public pour ce livre ?
Je pense que les deux publics sont tout à fait compatibles l'un avec l'autre. Mon souhait, c'est qu'on se laisse séduire et entraîner par le récit. C'est le rêve que j'ai formulé en faisant le pari de cette traduction. Mais on peut aussi prendre un très grand plaisir, non pas en le lisant du début à la fin, mais simplement en l'ouvrant notamment au début des chants, puisqu'il est partagé en chants, et que chaque début de chant est un petit poème qui est indépendant, qu'on peut lire sans connaître l'ensemble de l'histoire. C'est un livre aussi qu'on aime, je pense, à feuilleter, parce que grâce aux illustrations, par le fait que les éditeurs ont intégré tout à la fin des pages du livre originel. Donc si vous voulez apprendre le yiddish ancien, vous pouvez vous entraîner grâce à ce texte. Donc je pense qu'il y a effectivement des usages multiples, dont celui qui est patrimonial également, parce que, comme je le disais, j'ai eu le sentiment, moi, en lisant ce texte pour la première fois, que c'était un chef-d'œuvre de la Renaissance. C'est vraiment un texte qui mérite d'être placé parmi les grandes œuvres qui ont été publiées à côté de Rabelais, l'Arioste, des grands poètes de ce temps. Et je voulais qu'il entre, qu'il soit perceptible comme tel.
Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour terminer cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la Fréquence juive de lire ce livre ou de l'offrir, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je leur dirais que c'est un livre qui est rempli d'histoire, qui a une histoire lui-même, cette histoire qui comporte des couches de notre existence juive à travers le temps. C'est donc un texte en yiddish ancien, écrit en Italie, ne serait-ce que l'histoire même qui a précédé la publication est un roman à lui-même. Ce qui fait en réalité de ce livre un objet très particulier qui ne ressemble pas aux autres livres.
Merci infiniment Arnaud Bicard d'être venu nous parler de votre actualité, donc la traduction du yiddish ancien du roman de chevalerie Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne d'Elia Levita. Alors je dois dire que ce livre est à la fois étonnant, fascinant et que c'est un vrai petit bijou parce que non seulement il est intéressant en lui-même mais il montre aussi que la littérature yiddish fait partie de la littérature classique générale de la Renaissance et ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et passionnant. Alors évidemment, c'est un livre qu'on recommande chaudement aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive, aussi bien par curiosité ou pour l'offrir pour ces fêtes de fin d'année. Je crois que c'est vraiment un cadeau inédit, original et qui pourra surprendre. Merci, bonsoir, à bientôt.
Merci beaucoup Sandrine.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.